Vous écoutez IDFM, il est 10h.
Et à tous, Audrey Lamolly, et je suis ravie de vous retrouver sur IDFM dans l'émission La Parole aux Associations, une émission dédiée aux associations et à ceux qui les font vivre. Cette semaine, je reçois l'association franconvilloise Kiminou École pour tous, association qui a pour vocation d'aider, d'accompagner et de soutenir les jeunes dans leur éducation et leur scolarisation au Congo-Brazzaville. La République du Congo est un pays situé au cœur de l'Afrique. Ses voisins sont le Gabon, le Cameroun ou encore la République centrafricaine, à ne pas confondre avec sa voisine, la République démocratique du Congo, car en effet, il existe deux Congos bien distincts. Nous serons donc au Congo-Brazzaville ce matin, appelé aussi Congo ou République du Congo, plus petit que la République démocratique du Congo. Congo-Brazzaville est considéré comme le poumon vert de l'Afrique avec sa forêt tropicale humide. Pour nous parler de ce pays et de l'association, j'accueille ce matin Berthe Laval-Mwanza, présidente et cofondatrice de l'association, et Laurent Liobé, secrétaire, trésorier et cofondateur de l'association. Bonjour Laurent, bonjour Berthe, bienvenue dans l'émission.
Bonjour Audrey.
Bonjour Audrey.
Au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord de découvrir nos invités dans la rubrique Portrait d'engagé. Puis Berthe et Laurent nous présenteront plus concrètement ce que fait Kiminou. Et enfin, nous prendrons le temps d'échanger sur un grand projet à venir en dernière partie d'émission. Alors tout d'abord Berthe, Laurent, je vous propose de faire votre portrait d'engagé pour mieux faire votre connaissance si vous en êtes d'accord. C'est bon pour vous ? Eh bien, Laurent ou Berthe, qui veut en premier, est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter pour commencer votre parcours en dehors de Kiminou ? Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ?
Encore merci Audrey pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de notre association Kiminou École pour tous. Alors, je suis Berthe Laval-Mwanza. Je suis maman de deux filles. J'habite région parisienne dans le Val d'Oise, dans la commune de Franconville. Je suis donc présidente et cofondatrice de l'association Kiminou École pour tous. Notre association œuvre donc dans l'aide à l'éducation et à la scolarité des enfants démunis au Congo-Brazzaville principalement, mais pas que. Alors, notre association travaille donc dans les objectifs de développement durable, notamment l'ODD numéro 4, on aura l'occasion d'y revenir, et donc si je peux parler de moi, c'est un peu en ces termes.
Alors, vous avez créé Kiminou en quelle année ?
L'association Kiminou a été créée donc au Congo-Brazzaville en novembre 2019 et en France, l'antenne a été officialisée dans le Val d'Oise en mars 2020.
Et alors, qu'est-ce qui a été, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous étiez, vous salarié, il me semble, avant, enfin au moment où vous créez Kiminou, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez de créer une association? Et est-ce que c'est la première fois pour vous que vous créez une association?
Alors, donc, effectivement, à la base, nous étions, moi personnellement, j'ai toujours milité dans les associations et j'ai été membre à Médecins Sans Frontières, je suis toujours membre à Électriciens Sans Frontières et partant de cette expérience, donc de membre dans d'autres associations, je me suis dit, pourquoi pas une association où moi-même, je serais gestionnaire. Et donc, après aussi plusieurs descentes donc au Congo-Brazzaville, le Congo dans lequel je suis originaire, partant donc des réalités vécues sur le terrain, on a décidé donc de créer cette association Kiminou École pour tous.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, Kiminou ?
Kiminou, donc en langue nationale, les langues du sud du Congo-Brazzaville, ça veut dire la foi, l'espoir, voilà.
Et alors comment vous êtes venu avec Laurent, qui est trésorier, secrétaire et aussi cofondateur de l'association, comment vous êtes rencontrés?
Justement, donc en étant déjà, on se connaissait déjà dans la vie privée et donc du coup, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes valeurs. Donc dans la même radio, on a déjà été même avec Monsieur Jaurès Kibinda, qui est aussi le troisième cofondateur de cette association. À trois, donc on a échangé et au fil de nos échanges, on s'est rendu compte que finalement, on partageait les mêmes valeurs, on avait les mêmes principes de vie, donc on s'est dit pourquoi pas se réunir autour d'une association et fédérer ces valeurs qui sont vraiment bien ancrées en nous. Et en tout cas, c'est de là que commence Kiminou, École pour tous.
Merci Berthe. Alors à vous Laurent, oui. Votre parcours en dehors de Kiminou et puis aussi voilà les raisons pour lesquelles vous avez eu envie de fonder cette association.
Bien, je me présente donc Laurent Liobé, j'ai 58 ans, je suis informaticien dans une entreprise à grand groupe de distribution de matériel électrique et ça fait 30 ans que je suis dans cette entreprise, même si je l'ai exercée dans différents lieux à Orléans, à Grenoble et à Paris. Et que dire, donc je suis presque un Parisien quelque part puisque je suis né à Nogent-sur-Marne, mais j'ai beaucoup évolué à Orléans où j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à la fin de l'université, c'est-à-dire après un diplôme MIAGE informatique appliqué à la gestion. Voilà, donc que dire d'autre, j'ai deux enfants qui sont grands, hein, qui s'appelle Alexandre à 30 ans et Claire qui a 27 ans. Et puis donc il y a une phase effectivement où j'ai changé pas mal de choses dans ma vie dans les années 2012 où j'ai rencontré l'Afrique.
Alors vous l'avez rencontré à titre personnel, un voyage ?
Tout à fait, à titre privé. Une rencontre, on est allé, on m'a fait découvrir ce beau pays qui est le Congo-Brazzaville. Et ça a été pour moi, quelque part, un choc hein, de culture. Et c'était la première fois que je foulais le sol africain.
Et alors, qu'est-ce qui vous a autant impressionné?
Mais c'est un monde complètement différent. Pour moi, c'est un nouvel univers, des codes qui changent, un contraste de richesse et de pauvreté. Donc la richesse des ressources, et la pauvreté des gens et la richesse de cœur aussi des gens. Et ne serait-ce que l'atterrissage où on voit des gens qui traversent presque la piste, qui sont au bord une circulation automobile où on se dit jamais on s'engagera à prendre le volant dans cet enfer. Et puis beaucoup de rencontres, beaucoup de culture culinaire et artistique aussi.
Merci Laurent. Et Berthe, vous avez habité au Congo Brazzaville?
Ben, j'ai fait la plus grande partie de ma vie au Congo-Brazzaville, où je suis née, où j'ai grandi, j'ai fait ma scolarité, et tout se passait plutôt normal, et jusqu'au jour où, en voulant suivre donc l'autre partie de mes études, je me retrouve en France. Et il y a cela à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années.
Et vous vous rappelez, j'imagine, de vos premières impressions d'arriver en France?
Oui, on se rappelle toujours. Effectivement, comme venait de dire Laurent, c'est vraiment la différence de culture, tout azimut, en tout cas dans tous les sens, tout est différent et aussi beaucoup de valeurs en commun hein, que nous avons finalement aussi.
Alors, en introduction de l'émission, j'ai un tout petit peu parlé du Congo-Brazzaville. S'il fallait le présenter en quelques mots, mieux que moi d'ailleurs, qu'est-ce que vous nous diriez?
J'aime bien dire mon Congo, ce Congo, ce beau petit pays, petit. Il a quand même 342 000 kilomètres carrés avec moins de 6 millions d'habitants sur tout le territoire, à 60% occupé par les forêts et les mers. Et donc ce beau pays avec un lien avec la France, une ancienne colonie française, à la base la capitale, donc Brazzaville est la capitale de l'AEF, un pays riche en pétrole, en ressources forestières, qui est un pays très chaleureux avec une économie tournée notamment vers la forêt, le pétrole, qui est aussi où on partage vraiment les valeurs de solidarité au niveau religion, c'est catholique, protestant, donc des chrétiens, et il y a eu aussi une présence musulmane, hein, mais très faible. Que dire
Alors, vous l'avez dit, il y a des ressources naturelles importantes au Congo-Brazzaville, et pourtant c'est un pays qui affiche beaucoup d'enfants non scolarisés, avec un fort taux de décrochage scolaire, et puis des conditions d'apprentissage qui sont pas du tout optimales. Vous, quel constat vous faites de l'éducation au Congo-Brazzaville?
Mais écoutez, le décalage, il est énorme entre tout ce qu'on peut avoir comme ressources économiques dans ce pays et la pauvreté qui est présente dans ce pays. Les habitants sont en majorité pauvres. Il faut utiliser le mot pauvre, mais vraiment pauvre. La population pauvre, je pense que c'est la plus importante. Les enfants démunis, c'est les plus nombreux, je pense, sur tout le territoire du Congo. Mais je note quand même un décalage par rapport à l'époque où moi j'ai été au Congo. C'est-à-dire que au niveau scolaire, puisque c'est vraiment le domaine dans lequel nous œuvrons, la scolarité et l'éducation des enfants, les années passées, le Congo fut l'un des pays les plus scolarisés d'Afrique. Le taux d'alphabétisation au Congo était l'un des plus importants sur tout le territoire africain, sur toute l'étendue africaine. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut parler en termes de décennies, peut-être 30 ans après, ça a tourné à l'inverse, c'est-à-dire que le Congo fait maintenant partie des pays les plus où le taux d'alphabétisation est le plus bas. Sans rentrer vraiment dans les statistiques, mais je pense que il y a quand même, il faut dire les choses, un désengagement quand même de ceux qui nous gouvernent à investir dans le domaine de l'éducation, de la scolarité des enfants.
Vous qui avez fait votre scolarité, une partie de votre scolarité au Congo-Brazzaville, vous en gardez quel souvenir?
J'en garde vraiment un souvenir positif, dans ce sens que j'ai jamais été en manque de matériel scolaire, même si j'ai toujours eu quand même la chance d'être entourée par une famille normale, moyenne. Mais en tout cas, j'ai jamais été mise dehors parce qu'il me manquait le matériel scolaire, les frais de scolarité, les frais d'assurance, comme c'est le cas aujourd'hui, où beaucoup d'enfants sont mis dehors pas seulement mis dehors, ou n'ont pas la chance d'accéder dans une salle de classe simplement par manque de matériel scolaire. Cela n'a pas été le cas au moment où moi j'ai été scolarisée.
Et vous, Laurent, alors vous n'avez pas fait votre scolarité au Congo-Brazzaville, mais on va pas arrêter de parler d'école et d'éducation. Vous rappelez-vous de votre, alors pas forcément sur l'enseignement supérieur, mais vos années école primaire, vous étiez un bon élève?
Oh, j'ai toujours été plutôt moyen dans la scolarité. C'est vrai que par rapport à ma réflexion sur la scolarité et le Congo, quand je suis allé au Congo, j'ai vu quelques similitudes. Il faut se rappeler effectivement, comme le disait Berthe, que le Congo a été une colonie française, ça a été aussi la Brazzaville. Brazzaville a été la capitale de la France libre. Et puis, donc forcément, ça a un impact sur les structures, sur la façon, sur l'éducation. Il y a beaucoup eu, je dirais, si j'ose dire, de copier-coller hein, sur la façon dont on gérait les institutions là-bas. Et c'est sûr que ça laisse un héritage. Et moi, avec mes différentes séquences de voyages que j'ai pu faire, on sent un délitement en fait des structures et des capacités d'éducation au Congo-Brazzaville. On parlait de scolarisation. Finalement, en milieu urbain, la scolarisation, le taux de scolarisation n'est pas si mauvais que ça. Par contre, si on va en milieu rural, là, ça se désagrège. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est une population qui est très jeune. Donc, la population jeune augmente, mais les capacités d'éducation diminuent, puisqu'elles sont pas renouvelées, elles sont pas entretenues. Et il faut savoir que, sur une journée, vu le nombre d'enfants qui sont présents, les enseignants sont obligés de couper la journée en deux, c'est-à-dire que ils font le matin pour la moitié et l'après-midi pour l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'on fait pratiquement déjà la moitié de l'enseignement scolaire, avec des grandes vacances scolaires interminables et qui posent aussi problème sur les enfants, leur sécurité, etc.
Merci beaucoup Berthe et Laurent d'avoir bien voulu nous en dire un peu plus sur vous et aussi sur le fonctionnement du Congo-Brazzaville. Je vous propose de poursuivre notre conversation et de découvrir plus concrètement ce que fait Kiminou juste après avoir écouté In Your Eyes de The Weeknd sur IDFM. Vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission La Parole aux associations. Je reçois ce matin Berthe Laval-Mouanza et Laurent Liobé de l'association Kiminou, École pour tous. Alors, tout d'abord Berthe, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'association? Qui compose l'association?
Alors, l'association Kiminou, École pour tous, donc a deux antennes, une antenne en France et une antenne au Congo. La structure donc de l'association Kiminou par rapport à l'antenne congolaise est donc départementale, c'est-à-dire que nous avons six départements aujourd'hui qui représentent un peu notre association. Donc nous sommes dans le département de Brazzaville, le département de Pointe-Noire, du Poule, dans la Likwala et aussi dans la Bouenza et la Lekoumou. Et dans chaque département, en fait, si vous voulez, il y a une coordination dans ce sens qu'il y a un cordeau, un secrétaire départemental et un trésorier départemental. Et tout ça sous la houlette du secrétaire général national. Et au niveau de France, donc il y a la présidente, il y a le secrétaire général et aussi le trésorier général qui assure toute la trésorerie donc des deux antennes au Congo et en France.
Alors Kiminou mène plusieurs actions. Vous avez une action phare. Il y en a d'autres, mais en tout cas une qui revient chaque année, c'est la distribution du matériel scolaire aux enfants les plus démunis. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Alors, l'association est Kiminou, École pour tous, évolue sous forme de grands moments. J'appelle grands moments donc des activités, des actions que nous menons tout au long de l'année. Qu'est-ce que j'appelle action? C'est des activités en fait qui font vraiment la une de notre association. Si je prends par exemple l'exemple de l'activité donc de remise ou de distribution de kits scolaires, c'est une activité, nous avons l'habitude de l'appeler activité marronnier, c'est-à-dire qui revient chaque année. Pourquoi chaque année? Parce qu'on sait que les enfants démunis ont besoin donc du matériel scolaire pour aller à l'école. Et donc, chaque année, à la rentrée, nous leur remettons du matériel scolaire pour aller à l'école.
Cette année, c'est en octobre 2022.
Exactement. Donc, il y a cela à peu près deux mois que nous avons été sur place, donc en terre congolaise, distribuer ce matériel scolaire que nous avons donc collecté, comme d'habitude, en tout cas, via notre plateforme commune à nous tous, Elo Asso. Donc, on met toujours un lien, une campagne de crowdfunding. Et grâce à cette campagne, en tout cas, on arrive à avoir des personnes généreuses qui nous fait des dons, soit en nature, soit en numéraire. Et grâce à ces dons, nous achetons donc du matériel scolaire que nous composons en kit scolaire, c'est-à-dire des cartables, de l'uniforme, parce qu'au Congo-Brazzaville, on est encore en mode uniforme pour aller à l'école. Et aussi, le cartable, il est composé des cahiers, de tout ce qui est fourniture scolaire. Et grâce à ça, on s'organise d'une localité à une autre. Là, en l'occurrence, octobre dernier, c'était sur six localités que nous avons, les localités dans lesquelles nous avons distribué ce matériel scolaire à plus de 150 enfants.
Et alors, ça se passe comment, les échanges avec les écoles? C'est des écoles primaires?
Tout à fait. Parce que dans nos statuts, hein, on s'était dit que on s'occupait de la tranche d'âge d'enfants comprise entre 3 ans et 15 ans. Donc, du coup, c'est le préscolaire, le primaire et le collège.
Alors, comment vous identifiez justement les écoles et surtout les enfants les plus démunis? Est-ce que je crois que vous mettez en place tout un système d'enquête sociale pour que votre coup de pouce puisse servir aux plus démunis?
Ouais, il n'a échappé à personne que le Congo-Brazzaville reste un pays pauvre. Donc, la plupart des Congolais, c'est, voilà, pour ne pas avoir un abus de langage, c'est des personnes en majorité pauvres. Donc, et dans cette pauvreté-là, on peut quand même s'accorder de dire que c'est par degré, hein. Donc, du coup, nous n'avons pas le choix que de procéder par une enquête sociale pour savoir qui est plus dans le besoin. Quels sont les parents, les enfants qui sont plus dans le besoin? Parce que on peut quand même dire que entre un enfant orphelin qui n'a ni papa ni maman et celui qui a au moins les parents qui par exemple sont des fonctionnaires ou vendent au marché, cet enfant-là est un peu plus à l'abri que celui qui est orphelin. Donc nous précédons par une enquête sociale. Les enquêtes sociales, c'est quoi? C'est-à-dire que nous allons dans les quartiers rencontrer les chefs de quartier et en échangeant aussi avec des familles directement, ce qui est un exercice formidable pour nous qui nous permet de créer du lien social avec ses parents pauvres, avec ses parents dans le besoin. On crée ce lien social en échangeant avec les parents pour savoir un peu les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et qu'est-ce qui fait vraiment qu'ils n'arrivent pas à faire face aux besoins scolaires de leurs enfants? Donc, c'est vraiment une vraie enquête sociale que nous menons dans les quartiers, avec ces chefs de quartier, avec les parents de ces enfants, avec les milieux religieux aussi, en tout cas très importants, parce que généralement, ces familles pauvres souvent vont se réfugier, hein, la plupart du temps dans ces églises, où pour eux, c'est un moyen où ils vont se partager, être un peu en solidarité avec les autres pour créer ce lien, voilà. Donc, grâce donc à ces échanges, nous établissons donc nos fichiers à nous, nos listes à nous, qui seront donc composées des enfants plus dans le besoin. Et c'est ces listes-là vraiment qui nous servent maintenant en fait pour donner des kits scolaires.
Et alors, quelles problématiques reviennent lorsque vous allez rencontrer ces familles?
En tout cas, ça fait chaud au cœur déjà le fait de créer du lien. Cette démarche d'aller voir ses parents chez eux, c'est vraiment une très bonne démarche dans ce sens que ces familles se sentent considérées, elles se sentent aimées, généralement, vous savez, quand vous n'avez rien, vous êtes démunis, vous avez presque l'impression d'être isolé de la société. Mais le fait que nous, l'association Kiminou, nous soyons là, aller les voir, aller créer du lien avec eux, ils se sentent vraiment mis en valeur. Pourtant, on va pas forcément avec des gros sacs pour leur... On n'est pas des Pères Noël, en tout cas, loin de là. Mais juste cette démarche-là, d'aller les voir, de créer cette relation-là,
de les écouter, de prendre en compte réellement leurs difficultés.
Exactement. En tout cas, c'est quelque chose de très bien. Et qu'est-ce qui ressort de ces échanges? C'est qu'elles sont démunies. Ses parents passent la plupart du temps à aller plus chercher de quoi nourrir leurs enfants. Ils passent plus de temps à aller chercher comment soigner un enfant quand l'enfant a le palu, quand l'enfant a ceci, l'enfant a un rhume. Voilà un peu les préoccupations quotidiennes de ses parents. Et alors, si déjà ils ont du mal à trouver de quoi manger, de quoi soigner leurs enfants, je peux vous assurer que le côté scolaire, c'est vraiment secondaire parce qu'ils n'y pensent pratiquement pas. Si bien que quand ils voient quelqu'un venir se préoccuper de la scolarité des enfants, je vous assure, vous êtes presque accueillis comme un abus de mots peut-être, comme un dieu. Parce que pour eux, ils se disent, mon Dieu, l'école, ils sont, ses parents sont vraiment conscients que l'école, c'est libérateur, l'école, c'est important aux yeux de leurs enfants. Mais ils n'y arrivent pas à y faire face. Et donc, quand on voit quelqu'un venir se soucier de l'avenir de leurs enfants, je vous assure que c'est un grand bien pour ses parents.
Et alors, est-ce que vous sauriez, parce que je crois que vous êtes en train de développer un système de parrainage entre parrains, marraines et les enfants au Congo-Brazzaville qui sont accompagnés par Kiminou. Est-ce que vous sauriez à peu près nous dire déjà à quoi ressemble ce parrainage, en quoi ça nous, enfin, sur quoi ça engage le parrain ou la marraine, et puis surtout ça Ça coûte combien une scolarité d'un enfant en école primaire au Congo-Brazzaville?
La charte de parrainage de l'association Kiminou a été mise en place par Laurent. Je lui laisserai parler de ça. Mais tout ce que nous, moi, je peux dire en tant que présidente, c'est que nous avons besoin des parrains pour venir nous soutenir, soutenir la scolarité d'un enfant au Congo-Brazzaville. Et c'est quelque chose de très simple. La charte a été mise, Laurent vous parlera de ça. C'est très simple. Nous, on sera là comme un peu en train de jouer le rôle d'intermédiaire entre la famille de l'enfant et donc le futur parrain. Nous sommes là en intermédiaire pour veiller à tout cela. Et donc, je laisserai donc Laurent en parler.
Alors Laurent, cette charte.
La charte de parrainage. Bah, effectivement, puisque vous, comme vous l'avez dit, notre première activité a été la remise des kits scolaires. Mais on a aussi créé des structures sur les différents départements parce que l'objectif de Kiminou, c'est de se développer, de créer un tissu associatif dans plusieurs départements avec des cadres qui vont gérer l'association au quotidien, au plus proche. Et il s'est trouvé que il y a un des coordinateurs à Pointe-Noire une fois qui nous appelle et qui dit ah mais il y a un petit garçon là je passe toujours devant lui, il habite pas loin de chez moi et je constate qu'il ne va pas à l'école et vraiment il est vraiment démuni au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il a pas grand-chose pour se vêtir et lorsque ses camarades vont à l'école, lui reste là. Et donc, il nous a interpellés et on s'est dit, oh non, bon, là, on va pas savoir faire. Et il y a quelque chose là qui va falloir que l'on gère une situation et donc forcément il va falloir et ça a été un choix de s'occuper de Camien puisqu'il s'appelle Camien et c'est de là qu'est partie l'idée de parrainage parce que au niveau de l'association en France un des sympathisants a levé la main en disant moi ce petit garçon je peux l'aider, je peux assurer sa scolarité et j'ai envie de participer. Et donc il fallait que l'association puisse répondre à cette demande. On a eu effectivement beaucoup de questionnements lorsqu'on parle d'association, on parle de parrainage d'enfants, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut y aller vraiment.
De parrainage de scolarité.
De scolarité, c'est ça. Alors c'est de la scolarité, mais c'est aussi un parrainage affectif, parce que.
Il y a des échanges. Les échanges doivent être difficiles quand même.
Il faut qu'il y ait des échanges. Et il faut qu'il y ait des rencontres. Quand je me suis intéressé au problème du parrainage, je suis tombé sur une charte française hein, qui a été faite en 2003. Et je me suis dit, il faut adhérer à cette charte de parrainage si on développe cette activité et qu'il faut aussi s'approprier pour Kiminou créer sa propre charte de parrainage de façon à bien formaliser, être dans le formel, dans la constitution, en fait, de la relation entre un enfant au Congo-Brazzaville et son parrain qui pourrait être en France.
Et vous avez un ordre d'idée, justement, sur le coût d'une scolarité, un an, pour un enfant au Congo-Brazzaville?
Globalement, en fait, on peut tabler sur 100 euros par mois et donc les 10 mois couvriraient donc 1000 euros.
D'accord.
Sachant qu'effectivement, dans le parrainage, on va définir est-ce que c'est la scolarité, est-ce que c'est aussi pouvoir s'habiller, pouvoir s'équiper. Il y a aussi la nourriture, donc et savoir aussi si on est dans un cas où l'enfant sera dans un orphelinat ou dans une structure privée ou publique, etc.
Je vous propose de poursuivre notre conversation juste après avoir écouté Divi sur IDFM.
Je suis bancale, je suis bancale, je suis bancale. J'ai penché pour cette fille et sa douceur vanille. Je suis bancale, je suis bancale, je suis bancale. Moi qui dis jamais non dans dans le lit des garçons. Est-ce que ça va dans ma tête? J'ai le cœur au bord des yeux. Il a suffi d'une allumette pour que je prenne feu. C'était d'abord sa silhouette. Je suis bancale. J'ai penché pour cette fille et sa douceur vanille. Je suis bancale. Moi qui dis jamais non dans le lit des garçons.
Vous êtes toujours sur IDFM en compagnie de l'association Kiminou qui mène des actions de solidarité et d'éducation au Congo-Brazzaville. Alors Berthe, Laurent, on vient prendre des nouvelles du projet de jardin maraîcher que vous étiez venu nous présenter il y a un an et qui subissait déjà quelques encombres, notamment avec l'invasion des hippopotames. Qu'en est-il aujourd'hui de ce jardin maraîcher ?
Avec grand plaisir pour parler donc de notre projet jardin maraîcher. Nous avons donc quitté justement le jardin maraîcher de Nkaï où on avait la présence des hippopotames parce que le jardin maraîcher était situé pas loin d'un grand lac et qui était beaucoup fréquenté par les hippopotames. Et donc du coup nous sommes maintenant dans la localité de Moulimba située donc dans le département de la Lékoumou, c'est à Moulimba. Un beau projet qui nous fait vraiment plaisir, qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie entre les membres, entre même les donateurs, parce que du coup, pour la petite histoire, c'est que l'investissement qui a permis donc de mettre en place ce jardin maraîcher nous a été donné par l'ambassade des États-Unis. Qui nous fait donc un don, une enveloppe donc de $5,000. Grâce à ces $5,000, nous avons injecté cette somme donc dans ce jardin maraîcher. Et c'est un jardin maraîcher qui est sur une étendue de 3 hectares où nous avons des cultures de poivrons, de piments que nous avons même transformés en purée et que nous vendons, qui marche très bien et qui a un très bon retour.
Et alors, quel est l'objectif de jardin maraîcher ? dans votre association.
Je vais peut-être laisser Laurent.
Laurent.
Oui, donc on s'est effectivement intéressé au secteur de la Lekoumou et donc on a vu cet appel à projet de l'ambassade des États-Unis pour développer le côté agricole. Donc c'est les ODD contre la faim aussi. Donc
Objectif du développement durable
à 2030. Ouais, il y a 17 objectifs. Et donc nous, c'est l'ODD numéro 4 sur l'éducation. Et puis il y a aussi la lutte contre la faim. Mais dans notre démarche d'aide à la scolarisation, il est clair que ça prend son sens. Les enfants qui vont manger, qui vont aller à l'école le ventre vide, ça, on va pas bien étudier.
Expliquait dans ses enquêtes sociales que si la première préoccupation c'est celle de nourrir sa famille, forcément d'aller à l'école arrive en second plan.
Tout à fait.
Et lorsqu'on va développer des actions pour améliorer les écoles, soit mettre de l'électricité, de l'eau potable ou des sanitaires, il faut prendre en compte la pérennisation des projets. Par exemple, si on met du photovoltaïque, il va falloir rapidement remplacer les batteries et ça coûte cher. Et donc, il faut créer de l'activité rémunératrice de façon à alimenter un fonds d'entretien. Et donc, logiquement, l'activité agricole prend tout son sens. Et là aussi, l'activité agricole peut apporter aussi les subsides nécessaires pour constituer les kits scolaires. L'opération, il faut qu'on rentre aussi dans une logique d'autonomie plutôt que rester dans un système de dons externes et qui viennent. Alors que si on traite donner de l'activité aux parents des enfants démunis, c'est sûr qu'on va résoudre pas mal de soucis et on va créer une dynamique positive. C'est pour ça, c'était un des objectifs de ce maraîchage.
Oui, Berthe.
C'est exactement ça, en fait, le but poursuivi par cette activité agricole. Donner de l'autonomie aux parents. Parce que le but de l'association Kibinou n'est toujours pas là, aller donner des kits scolaires à chaque rentrée. Non, le but, c'est aussi rendre responsables, rendre autonomes ces parents démunis pour qu'ils aient un revenu à la fin du mois pour pouvoir eux-mêmes prendre en charge leurs enfants, pouvoir acheter eux-mêmes les kits scolaires à leurs enfants. Parce que on le fait dans un début, on ne pourra pas le faire éternellement. Donc, ceux qui travaillent dans cette activité agricole, ce sont ces parents pauvres. Et à la fin, ils ont un petit revenu et c'est ce petit revenu qui les valorise, qui leur donne quelque part de l'activité, un peu, on va dire, du travail. Et c'est grâce donc au revenu de ce travail qu'ils se sentiront responsables, ils se sentiront autonomes et avec aussi le rôle de papa qui va avec. Parce qu'un papa qui n'a pas de revenu, qui n'a pas de travail, il n'est même pas écouté par ses enfants. Il n'est même pas suivi par les enfants parce que c'est qui ce papa-là qui se lève le matin qui ne peut même pas acheter du pain à ses enfants. Mais un papa qui a une activité, qui sait qu'aujourd'hui, le jardin maraîcher, c'est là où je vais travailler pour pouvoir avoir un gagne-pain, pour assurer la scolarité, les besoins de mes enfants. En tout cas, je vous assure, on a besoin de cette activité agricole et on en appelle en tout cas aux gens qui peuvent nous soutenir dans cette activité agricole, que c'est une vraie activité qui pourra rendre responsables beaucoup de parents et par la suite subvenir aux besoins de leurs enfants.
Et alors justement, vous nous racontiez que le jardin maraîcher était géré finalement par les populations locales, les familles concernées par l'accompagnement de Kibinou. Il y a eu un enthousiasme immédiat ou il a fallu convaincre, il a fallu mettre en dynamique au départ?
Pas du tout. Le Congo, tout le monde le sait, tout le monde, les gens qui ne connaissaient pas le Congo l'ont compris que c'est un pays déjà agricole à la base. Donc, les gens, quand vous arrivez, effectivement, vous voyez les gens qui traînent dans les rues, qui n'ont rien à faire, les jeunes, oisifs, ils font rien. Vous savez, la personne trouve quand même son sens quand la personne a une activité. Et dès lors que nous arrivons dans la ville, on avait ces moyens-là pour démarrer cette activité, on a eu du monde derrière nous. Et tout de suite, nous les avons réunis. Nous avons appelé les volontaires, effectivement, ça n'a pas, nous sommes pas partis dans les maisons des gens chercher les gens. L'annonce a été donnée, les gens se sont présentés à nous et on a demandé les volontaires. Les tâcherons se sont présentés nombreux. Parce que effectivement, on n'est pas forcément sur du contrat du travail, des contrats à durée indéterminée, pas forcément. C'est selon la tâche, parce que l'activité venait de démarrer, on pouvait pas faire des contrats, des longs contrats. Donc dans un premier temps, c'était des tâcherons à la journée, à la semaine, en fonction du besoin que nous avions. Et c'est ce qui s'est passé, et en tout cas très très bien suivi par les populations du coin.
Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre notre conversation juste après avoir écouté À la faveur de l'automne de Tété, accompagné de Jérémy Frérot sur IDFM. À tout de suite.
Posté devant la fenêtre, je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé. Maintenant que tu abandonnes, à la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, qui est un peu comme on se donne de vieilles mélodies. Privé devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Toi, tes allures de garçon rompies, un peu la monotonie de mes journées, de mes nuits. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Quatre, un peu comme on fredonne de vieilles mélodies. À la faveur de l'automne, tu redonnes à ma mélancolie ces couleurs de super scobitone. À la faveur de l'automne, comment seulement être aussi bête, on m'avait prévenu, voici la vérité nue. Et là, là, manquerait plus que le mauvais temps s'y mette une goutte de pluie, j'aurais vraiment tout perdu. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme on fredonne de vieilles mélodies. À la faveur de l'automne, tu redonnes à ma mélancolie ces couleurs de super sauvitone. À la faveur de l'automne.
Vous êtes toujours dans l'émission La Parole aux Associations avec l'association Kiminou sur IDFM. Alors Berthe, Laurent, en préparant cette émission, vous aviez envie de nous parler d'un projet de développement de l'association, notamment votre projet de réhabilitation d'un centre culturel et de loisirs suite à une enquête que vous avez réalisée récemment auprès de la population locale. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce projet ?
L'association Kiminou, École pour tous, qui a pour vocation l'aide, le soutien, l'accompagnement des enfants démunis dans leur éducation et leur scolarité. Effectivement, nous œuvrons dans le domaine de l'éducation des enfants, ce qui revient à dire que le projet de réhabilitation de la bibliothèque de Nkaï et du centre culturel, c'est un grand projet pour l'association Kiminou. C'est même notre premier projet, c'est un projet qui nous tient à cœur. Il a été lancé donc en début d'année, comme je ne veux pas répéter ce que Audrey vient de dire. Donc c'est suite à une enquête bien menée avec les populations locales, avec tous les corps constituer les habitants, parce que nous ne sommes pas là à venir imposer un projet, nous travaillons avec les locaux. Donc un projet bien examiné, bien monté, et le projet de réhabilitation de la bibliothèque de Nkaï est lancé. Il a besoin, les bâtiments de cette bibliothèque ont besoin d'être rafraîchis, d'être rénovés. Il y a besoin des travaux. Les professionnels de ce bâtiment, du bâtiment sont venus faire des devis. Le devis, il s'élève à 19 000 €, soit 12 millions, je pense, en francs CFA. Et pour cela, le projet a été lancé. Les petites mains, ce que je peux appeler les personnes généreuses, ont jusque-là, en tout cas, fait l'effort de recueillir 16% de cet objectif. Depuis que ça a été lancé, la générosité fait que 10 euros, 5 euros, 1 euro par-ci, on est déjà à 3 300 €.
Alors, quel est l'objectif de cet espace culturel? Là, vous nous parlez d'une réhabilitation d'une bibliothèque en perdition qui existe donc déjà, mais pas très bien. Et pourquoi aller vous lancer dans ce type de projet? Qu'est-ce que ça viendrait faire, compléter dans votre action déjà existante?
La bibliothèque est donc, tout le monde l'a compris, en lien avec l'éducation, la scolarité des enfants. Les enfants démunis, vous l'avez compris, c'est notre catégorie d'enfants pour lesquels nous nous occupons. Les enfants pauvres n'ont même pas de lumière chez eux, même pas une table banque chez eux. Ils abandonnent les études par mauvaises conditions de vie chez eux. Alors, nous avons mis le projet de bibliothèque en route pour avoir un espace de travail, un espace d'études, pour trouver un livre. La bibliothèque serait donc cet endroit privilégié pour ces enfants-là pour venir. Si moi, à la maison, j'ai un devoir à faire à la maison et qu'à la maison, je manque de bonnes conditions de travail, je passe à la bibliothèque pour travailler. Parce que à la bibliothèque, je trouverai un livre. Parce qu'à la bibliothèque, il y a de la lumière. Parce qu'à la bibliothèque, les conditions sont bonnes pour faire mes devoirs.
Alors ça, c'est l'espace de travail, ça on l'a compris, mais vous m'avez parlé d'une autre dimension, une autre utilité. Moi, j'ai fait exprès de parler d'espace culturel parce que j'ai compris qu'il y avait aussi d'autres enjeux de ce lieu. Laurent ?
Oui, tout à fait. On parlait du livre. Le livre, c'est important. Donc les familles ont très peu de livres chez eux. Et même les enseignants ont très peu de moyens didacticiels pour l'enseignement. Donc aujourd'hui, la bibliothèque de Caï, elle est dépourvue de ces livres-là, des livres scolaires et de livres de culture générale. Et donc le projet, on l'a fait aussi avec l'ambassade de France, qui nous a mis en contact avec une autre association qui s'appelait Les Petites Rivières, que je dis elle s'appelait parce que elle n'existe plus, mais avant d'arrêter son activité, elle nous a cédé près de 3000 plus de 3000 livres, et on a fait une récolte aussi avec des écoles qui ont aussi levé la main pour nous donner des livres scolaires. On arrive à 5000 livres aujourd'hui. Donc on va fournir cette bibliothèque avec des livres. Et aussi des équipements informatiques, puisqu'on veut aller sur le multimédia. Le directeur nous a demandé de créer une salle multimédia. Et donc on a des ordinateurs qui sont à disposition, et on a aussi des partenaires qui vont développer ce concept de lien avec l'informatique.
J'ajouterais d'ailleurs que, à part le côté bibliothèque, il y a aussi le côté centre culturel. C'est vraiment un lieu par excellence où les enfants de la localité viendraient s'exprimer culturellement. D'ailleurs, au mois de juillet, j'ai organisé 3 journées culturelles où les chorales, les enfants qui pratiquent de la danse, du chant, du dessin, de la coiffure africaine se sont retrouvés nombreux sur cet espace culturel pour exprimer leurs talents.
Parce que Laurent évoquait en début d'émission qu'il y avait aussi des grands temps de vacances. Alors vacances, vacances scolaires, mais vacances aussi de on ne sait pas quoi faire du temps libre qu'on a.
Alors c'est un projet, effectivement, on a identifié ce désœuvrement, ce manque d'activité qui met un écho particulier à la violence à travers les jeunes filles aussi, la violence physique, la violence verbale, la violence sexuelle, et c'est une problématique. Lorsqu'on est 3 mois en vacances et qu'il y a du désœuvrement et qu'il n'y a pas de moyens d'étudier ou de se réfugier dans un lieu de culturel, d'études, etc., ou sportif, lorsqu'il n'y a pas de structure sportive, c'est problématique. On a un projet que aussi, mais bon, on va parler que du projet culturel, mais on a des projets sur ces aspects-là. Mais il faut savoir que lorsqu'on fait aussi de la distribution de kits scolaires, nous, on intègre aussi la partie valorisation des enfants et le côté culturel et sportif. Voilà, donc on prend en compte cette dimension-là.
Et alors, quand est-ce qu'elle pourrait voir le jour, cette bibliothèque rénovée, réhabilitée? Est-ce que vous avez un peu une date en vue ou...
Ben écoutez, là en tout cas, on est très heureux d'avoir atteint plus de 15% donc de l'objectif. C'est ce qu'on attendait. Et donc d'ici le mois de mars, j'informe à tout le monde, à tous ses soutiens en tout cas, grâce à qui nous avons pu déjà franchir cette étape, que on pourra lancer donc le chantier là à la fin du mois de mars, donc à la fin du premier trimestre, pour commencer déjà. Comme ça, au fur et à mesure de l'évolution des travaux, tout le monde suivra et que tout le monde sache que l'argent que vous avez donc collecté, que nous avons collecté, va bien dans ces travaux-là. Donc, d'ici le mois de mars, le chantier sera lancé.
Et alors, une question un petit peu plus large, alors soit liée à ce dernier projet, mais aussi à vos autres projets. De quoi aujourd'hui Kiminou a besoin?
Très bonne question. Et donc... nous avons en gros 2 grands projets, donc la bibliothèque d'Unkaï. Nous avons un lien sur Elo Asso et nous ne demandons qu'une chose, du soutien tant en nature, en numéraire. Rejoignez-nous, en tout cas, donnez vos dons pour ceux qui sont sensibles à l'éducation, à la scolarisation des enfants. Merci en tout cas de nous soutenir dans ce projet en numéraire ou en nature. Et du côté du deuxième grand projet, c'est-à-dire le projet agricole, nous avons un gros problème, c'est le transport du matériel, des produits agricoles. Nous produisons du poivron, des aubergines, du piment, mais nous avons du mal à écouler ces produits agricoles de là où nous les produisons, c'est-à-dire à Moulimba, vers les grands centres pour l'écoulement. Et si vraiment quelque part, il y a une personne, une entreprise qui a un véhicule qu'il veut donner en don, en nature, à l'association qui nous mine. En tout cas, nous sommes grandement preneurs et sachez que tout cela est défiscalisé et en tout cas, on a tous les documents pour que ça soit défiscalisé.
Merci beaucoup Berthe et Laurent d'être venus nous présenter avec autant d'engagement, de solidarité et de détermination l'association Kiminou. Alors on arrive à la fin de l'émission, mais avant de se quitter, comment peut-on vous contacter ?
Alors c'est très simple, donc pour nous contacter à partir de la France, il y a 2 numéros de téléphone, 06 11 12 24 41. Le deuxième c'est 06 68 92 71 11. Ça c'est le téléphone. Sur WhatsApp pareil, nous avons une adresse email, donc Kiminou, Kiminou .association@gmail.com. Et aussi sur Facebook, parce qu'on est...
Vous êtes partout.
Exactement, on est sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous allez sur Kiminou, École pour tous, sur Facebook, vous verrez toutes nos réalisations. Je prends plaisir, en tout cas, à mettre tout ce que nous faisons sur la page Facebook. Et aussi, notre site internet, c'est kiminou.fr.
J'ai été ravie de partager cette heure avec vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de réussite à venir pour Kiminou, pour tous les projets en cours et à venir. Merci beaucoup.
Merci Audrey, merci en tout cas à la radio d'Anguin de nous donner cette opportunité de parler de notre association. En tout cas, c'était du plaisir.
Et n'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez aussi adhérer à l'association. Vous serez les bienvenus.
Un grand merci également à Francky, à la technique de cette émission. Tout de suite, retrouvez l'émission Chansomania animée par Seb Dill. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.